Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qui prévoyait le partage de la Palestine en deux États. Nizar Badran, médecin franco-palestinien, ex-président de Palmed France, sera l'un de nos invités. Face à la propagation du variant Omicron du coronavirus, plusieurs pays ferment leurs frontières aux voyageurs étrangers, à l'image des autorités marocaines qui suspendent pour deux semaines tous les vols directs de passagers à destination du Maroc. Le ministre français de l'Intérieur appelle le Royaume-Uni à ouvrir un accès légal à l'immigration et à prendre ses responsabilités. Un appel au lendemain d'une réunion consacrée à la lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux de passeurs après le drame de la semaine dernière et la mort de 27 exilés dans la Manche. Suite à cette réunion intergouvernementale, entretien avec Patrick Lejarric, l'ex-député européen et éditorialiste à l'Humanité, estime que les gouvernements se servent des migrants comme moyen de pression. Cela fait plus d'un mois, une trentaine d'étudiants et militants syndicaux occupent le bâtiment administratif de l'université Paris-Nanterre. Des étudiants qui demandent à poursuivre leurs études. Nous écouterons Marc Piron de la tendance Action collective et lutte étudiante au sein du syndicat UNEF. Le coup d'envoi ce mardi de la Coupe arabe de football. Elle se tiendra avec la participation de 16 équipes. La journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté la résolution sur le partage de la Palestine. La journée internationale de la solidarité offre à la communauté internationale l'occasion de concentrer son attention sur le fait que la question de la Palestine n'est pas réglée et que le peuple palestinien n'a pas atteint ses droits inaliénables tels que définis par l'Assemblée générale. Entretien avec Nizar Badran, médecin franco-palestinien, ex-président de Palmed France.
Il s'agit de rappeler les pays du monde, la totalité des pays du monde, à leur droit d'aider les Palestiniens, de soutenir les Palestiniens, obtenir justement leurs droits qui sont reconnus par la loi internationale et par les décisions des Nations Unies, notamment trois points. Le premier, c'est le droit à l'autodétermination, comme tout le peuple. Le second, c'est le droit à l'indépendance, avoir un État indépendant. Et le troisième, bien sûr, et le plus important à mon sens, c'est le droit au retour, c'est le droit des réfugiés palestiniens qui étaient expulsés de leur terre pendant la guerre dans les années 40, 1947-48, au retour dans leur pays, dans leur village. Et voilà les différents éléments. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire par ailleurs sur l'application, disons, des conséquences pratiques de cette journée de solidarité depuis 40 ou 43 ans? Les peuples en général soutiennent les Palestiniens, le peuple palestinien, la cause palestinienne. Mais ce soutien n'est pas vraiment traduit dans les faits quand il s'agit de décisions gouvernementales, que ce soit en Europe, aux États-Unis et dans les pays arabes.
Docteur, est-ce que vous pouvez nous faire part de ce que vous effectuez?
Je suis l'ancien président de Palmed et je suis aussi le vice-président d'une autre association franco-palestinienne. Nous avons récemment, au nom de Palmed, envoyé une équipe palestinienne il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Elles sont rentrées il y a 2 jours de la Palestine, de Gaza, où ils ont aidé à la réalisation des actes médicaux, notamment des actes de chirurgie, parmi d'autres urologies, que je connais bien. On a aussi des projets d'aider nos équipes locales, les hôpitaux palestiniens locaux, à développer leur activité propre. Dans le cadre aussi de nos activités, on essaye de faire venir en France, on a déjà fait à plusieurs reprises, des Palestiniens, des médecins palestiniens, pour améliorer leurs compétences dans différents domaines, notamment en chirurgie et aussi en cardiologie et dans d'autres disciplines. Nous sommes plus une association qui aide, qui cherche à aider à la formation médicale qu'autre chose.
Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui de la situation des infrastructures médicales dans les territoires palestiniens, docteur?
Le territoire palestinien souffre de manque d'infrastructures chroniques, hein, ça remonte déjà à très longtemps. Et j'allais dire, c'est pas dû aux Palestiniens eux-mêmes, hein. C'est pas simplement par l'incompétence des cadres palestiniens ou par la non-présence ou le manque de matériel médical ou de personnel médical, mais plutôt par la volonté de l'occupation israélienne d'entraver les activités des Palestiniens. C'est-à-dire pour les Palestiniens par exemple de la bande de Gaza, nos collègues médecins ne peuvent pas sortir comme ils l'auraient souhaité pour être formés à l'extérieur. Nous, on peut pas y aller facilement à cause des contrôles qui sont régulièrement, qui entravent régulièrement nos activités. Alors, si on parle de la Cisjordanie, c'est pas beaucoup mieux. Il y a quand même beaucoup de manque au matériel, de manque surtout en formation médicale des médecins, mais surtout bien aussi des infirmiers, des infirmières et des cadres médicaux, que ce soit des techniciens de laboratoire, techniciens de radiologie, de la formation universitaire. Il y a beaucoup de besoins réellement à apporter, à combler par le soutien de nos amis, des associations qui nous aident à travers le monde. L'aide qu'on a actuellement, elle reste très limitée parce que pour pouvoir faire entrer des choses dans les États de Gaza, c'est très difficile, même si on a la volonté, même si on a le moyen, et on ne peut pas tellement le faire. Donc on est un petit peu gêné. Le fait, l'occupation, la première maladie des Palestiniens, si vous voulez, qui cherche à être guéri, c'est l'occupation. Si vous guérissez l'occupation, c'est cette maladie guérie qui disparaît, qui n'a plus d'occupation, qui a l'état indépendant, qui a l'autodétermination. Les Palestiniens, ils ont la compétence absolument totale et complète pour établir un système médical, un système de santé cohérent et logique, avec des compétences internationales, parce que les médecins palestiniens, vous les trouverez un peu partout, pas uniquement dans les pays arabes, mais aussi en Europe, aux États-Unis, et un peu partout, ils sont aussi formés partout. Vous avez des compétences palestiniennes qui viennent de partout dans le monde, donc nous avons une médecine cosmopolite, internationale, qui est particulière, la médecine palestinienne, parce que vous avez tout le savoir de tous les pays pratiquement réunis dans des petits territoires, parce que nos médecins viennent de partout. Donc notre premier problème est réellement c'est l'occupation israélienne, c'est la non-application des règlements de la question palestinienne, c'est la non-application de droit international, c'est l'absence de droit des Palestiniens à l'autodétermination, c'est le refus des autorités israéliennes d'établir de la solution à deux États. C'est l'absence de soutien international à la cause palestinienne. En fait, c'est ça le problème de base à partir duquel vous pouvez avoir tous les problèmes qu'on découle, la santé mentale, le besoin des enfants, les problèmes du camp de réfugiés à Gaza ou en Cisjordanie ou aussi au Liban. On ne peut pas oublier le Liban, les situations de réfugiés palestiniens, et le soutien à l'UNRWA, etc. Tout ça découle de l'absence d'un vrai soutien à la cause palestinienne, d'où je reviens sur cette journée internationale de soutien à la cause palestinienne, plutôt à la solidarité avec les Palestiniens, de l'importance de ce soutien populaire, l'importance de soutien de la société civile, des organisations de la société civile, pour qu'elles puissent faire pression sur le gouvernement, notamment en Europe et aux États-Unis, que cette pression-là peut aboutir effectivement à un changement dans leur position politique et leur par rapport à la question palestinienne.
Nizar Badran, médecin franco-palestinien, ex-président de Palmed France. La reprise des négociations à Vienne pour relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances. Les pourparlers avaient été suspendus en juin dernier. L'Iran se dit fermement déterminé à parvenir à un accord avec la communauté internationale. Face à la propagation du variant Omicron du coronavirus, plusieurs pays ferment leurs frontières aux voyageurs étrangers. Les autorités marocaines ont décidé de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Maroc, cela pour une durée de 2 semaines à compter de ce lundi 23h59. Le Japon aussi sera inaccessible dès ce mardi aux visiteurs étrangers. Israël ferme aussi ses frontières. Dans ce contexte, le G7 a réuni aujourd'hui en urgence ses ministres de la Santé. De son côté, la Tunisie met à jour ses conditions d'entrée à partir de mercredi prochain. Toutes les personnes devant se rendre dans le pays devront présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures avant le départ. Jusqu'alors, le délai était de 72 heures, une mesure applicable aux voyageurs de plus de 6 ans. C'était hier à Calais, une réunion intergouvernementale autour de la question des migrants. Une réunion consacrée à la lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux de passeurs après le drame de la semaine dernière, la mort de 27 exilés dans la Manche. Le ministre français de l'Intérieur a appelé ce lundi le Royaume-Uni à ouvrir un accès légal à l'immigration et à prendre ses responsabilités. Éditorialiste à l'Humanité et ancien député européen, Patrick Le Yarrick estime que les gouvernements se servent des migrants comme moyen de pression répression. Patrick Le Yarrick.
Ce qui se passe là est affreux. On laisse des jeunes gens qui fuient la guerre, qui fuient les persécutions, qui fuient les famines, qui sont menacés de mort. J'ai entendu ce matin le cas d'un Irakien qui était menacé de pendaison. On les traite comme du bétail à Calais, et ensuite on les laisse prendre des embarcations de fortune qui profitent d'ailleurs bien aux passeurs. Donc il faut faire respecter le droit d'asile et il faut trouver un accord Royaume-Uni-France pour celles et ceux qui veulent rejoindre leur famille là-bas dans des conditions de transport décent par bateau ou par train, de telle sorte qu'ils se retrouvent là-bas. Et pour les autres, il faut faire activer le droit d'asile en coopération avec d'autres pays européens.
On a l'impression aujourd'hui que la France se retrouve dans la même situation que l'Italie et la Grèce vis-à-vis de la Grande-Bretagne.
Oui, il y a des similitudes parce que le président Sarkozy avait signé un accord avec la Grande-Bretagne qu'on appelle les accords du Touquet. Et dans ces accords-là, il a été convenu que la France serait la frontière de l'Union européenne pour ce qui concerne les réfugiés et les migrants. Donc cet accord-là, il faudrait évidemment le faire sauter et avoir un autre travail, un autre traité de coopération et respectant le droit d'asile des réfugiés.
Est-ce que le Brexit a compliqué cette question entre la France et la Grande-Bretagne ?
Ben, il y en avait déjà, puisqu'on sait qu'il y avait des grands campements à Calais, mais sans doute c'est aggravé, puisque dans la multitude de confrontations qu'il y a aujourd'hui entre la France et le Royaume-Uni, en plus de la pêche et d'un certain nombre d'autres choses, vous voyez bien que les migrants, là comme ailleurs, servent de monnaie, de pression, de chantage, ce qui est totalement abominable entre les pays.
Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité et ancien député européen, il répondait à Loïc Barrière. Leur combat dure depuis plus d'un mois. Depuis le 27 octobre, une trentaine d'étudiants et militants syndicaux occupent jour et nuit le bâtiment administratif de l'Université Paris-Nanterre. Des étudiants qui demandent à poursuivre leurs études. Bart Piron, de la tendance Action Collective et Lutte étudiantes au sein de l'UNEF.
Les sans-fac, c'est des étudiants qui sont, comme chaque année malheureusement, refusés ou acceptés dans aucune proposition de vœux, aussi bien en première année de L1 ou en Master 1 ou dans l'ensemble des tentatives de candidature qu'ils font, et donc des étudiants qui se retrouvent sans affectation à l'université ou en étant affectés dans des formations qui ne leur correspondent pas, qui ne leur plaisent pas et qui du coup revendiquent le fait de pouvoir s'inscrire dans la fac et la filière de leur choix. Alors aujourd'hui, un certain nombre, en tout cas à Nanterre, ont pu malgré tout trouver des inscriptions par la mobilisation qu'on a eue au niveau de l'UNEF. Mais on a encore aujourd'hui, et c'est la raison de l'occupation qu'on organise depuis un mois, une soixantaine d'étudiants qui sont toujours sans affectation et à qui l'université ne propose rien. Elle se contente de dire « nous n'inscrirons plus personne à Nanterre ». Et donc ces étudiants, pour l'instant, sont amenés à rester sans fac une année entière.
Est-ce qu'il y a des filières qui sont plus concernées que d'autres ?
Bien évidemment. Je pense que la L1, c'est principalement les filières de STAPS, de psychologie, de droit ou d'économie-gestion. Et en réalité, on retrouve ça aussi au niveau des masters. Voilà, les masters qui sont les plus sélectifs, dans lesquels il y a le moins de places, et qui donc acceptent un nombre plus réduit d'étudiants, qui sont voilà également les masters de droit, psychologie, économie, entre autres.
Est-ce que ces étudiants sont informés de ce manque de débouchés quand ils commencent leurs études ?
Alors, en l'occurrence, pour les étudiants qui se retrouvent sans fac en L1, pas du tout. Enfin, c'est les étudiants qui connaissent Parcoursup, qui savent que ça existe, mais à qui, tout le long de leur scolarité, on leur dit que il faut faire des études, il faut avoir une place à l'université, qui pourront la trouver, mais qui sont pas forcément au courant de la réalité de la sélection, même si voilà, Parcoursup existe depuis un certain nombre d'années, donc elle se constate quand même de plus en plus. Et au niveau des masters, évidemment, il y a une grosse pression qui est mise au quotidien sur les étudiants pour leur dire « faites attention à vos résultats, le nombre de places est limité en master, la sélection est importante ».
Et de quelle manière s'opère cette sélection ? C'est sur les notes, sur d'autres critères ?
Alors ça, c'est souvent le grand flou, justement. Sur Parcoursup, la sélection est très opaque. Voilà, il y a des, on se doute, on sait, il y a des algorithmes qui existent, on ne sait pas précisément tout le temps comment ils fonctionnent, mais ce qu'on constate, c'est que c'est en réalité en partie une sélection sur les notes, mais qu'elle dépend aussi beaucoup d'éléments sociaux, c'est-à-dire du lycée d'où viennent les étudiants qui candidatent en L1, des options qu'ils ont faites quand ils étaient au lycée, bien évidemment aussi leur résultat scolaire. Pour ce qui est des masters, c'est pareil, c'est les profs qui choisissent voilà, selon le dossier des étudiants. Donc c'est une sélection quand même assez voilà, au mérite malgré tout d'un certain point de vue, avec des critères qui des fois malgré tout sont quand même assez assez flous, et surtout une sélection qui en réalité s'opère surtout sur une base, c'est il n'y a pas assez de place, donc on prend un nombre limité d'étudiants.
Barthe Piron de la tendance Action collective et luttes étudiantes au sein de l'UNEF, il répondait à Loïc Barrière. Le coup d'envoi ce mardi de la Coupe arabe de football, elle se tiendra avec la participation de 16 équipes, 9 équipes, Qatar, Algérie, Égypte, Irak, Maroc, Arabie Saoudite, Syrie, Tunisie et Émirats Arabes Unis se sont qualifiés grâce à leur rang au classement mondial de la FIFA. Les 7 autres ont joué des barrages à Doha pour s'assurer une place dans le tournoi. Un tournoi dans 6 des 8 stades qui accueilleront des matchs lors du mondial 2022 avec une finale le jour de la fête nationale le 18 décembre, un an jour pour jour avant la finale du mondial. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Yannick Trigance, conseiller régional en Ile-de-France et secrétaire national du PS à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.